Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Les relations entre les États-Unis et Israël sont de plus en plus crispées. 7 humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen ont été tués lundi. Et le fondateur de l'ONG accuse Israël d'avoir ciblé ses employés, nous l'entendrons. La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, a subi de nouvelles frappes russes cette nuit. Des secouristes sont morts lors d'une seconde frappe sur un lieu qui venait d'être bombardé. Nous écouterons le reportage d'Agathe Mahué. Les conditions de vie des harkis accueillis dans le camp de Bias n'étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine. La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous entendrons la réaction d'un fils de harki qui avait saisi la CEDH. Une loi pour limiter la diffusion des polluants éternels adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Sophie Delpont a suivi le débat et le vote. Les États-Unis vont-ils conditionner leur aide à Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre? Washington a apporté un soutien indéfectible à l'offensive menée par Israël dans la bande de Gaza. Mais avec la dégradation de la situation humanitaire, le bombardement des hôpitaux, les accusations répétées de crimes de guerre, de plus en plus d'Américains désapprouvent l'opération militaire israélienne. Et Joe Biden a commencé à faire part de ses divergences de vues avec Benjamin Netanyahou. Fin mars, les États-Unis ont permis le vote d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. Et la mort lundi de 7 humanitaires d'une ONG basée aux États-Unis a encore accru le mécontentement américain. Joe Biden devrait le faire savoir tout à l'heure au téléphone au Premier ministre israélien. Il faut ajouter, Sébastien Paour, que le fondateur de l'ONG World Central Kitchen accuse Israël d'avoir délibérément ciblé ses employés.
Le chef José Andrés ne mâche pas ses mots dans cette courte vidéo.
We were targeted.
Nous avons été pris pour cible délibérément, sans arrêt, jusqu'à ce que tout le monde soit mort dans ce convoi. Il ne s'agit pas d'un coup de malchance, d'une situation où, mince, on a lâché une bombe au mauvais endroit. Non, c'était un convoi humanitaire clairement identifié, sur plus de 1,5 km ou 1,8 km, avec des autocollants sur le toit. Frapper des ONG ne doit pas être le rôle d'une armée, dit encore le fondateur de World Central Kitchen. Les humanitaires et les civils ne devraient jamais payer les conséquences de la guerre. C'est un principe fondamental de l'humanité. Ce n'est plus une guerre contre le terrorisme aujourd'hui. C'est une guerre contre l'humanité elle-même. Joe Biden a appelé celui qu'il présente comme son ami dès le lendemain de la frappe israélienne. Il s'est dit indigné et le cœur brisé dans le communiqué publié par la Maison-Blanche.
Sébastien Paour à Washington, le bombardement d'un convoi humanitaire, la destruction de l'hôpital Al-Shifa. Chaque jour, la vie des civils de Gaza devient de plus en plus difficile. Seule une dizaine d'hôpitaux de l'enclave fonctionnent encore sur les 36 qui existaient avant la guerre. Et fonctionner est encore un bien grand mot. Le docteur Amber Alayan coordonne les activités de Médecins sans frontières à Gaza. Selon elle, ce qui se passe dans les centres de soins dépasse l'entendement.
The types of injuries that we're seeing are explosive injuries by and large. 99% of the injuries that we see in our hospital.
La plupart des blessures qu'on voit sont causées par des explosifs. Ça concerne 90% des blessés qui arrivent dans nos centres de soins à Rafah. Ce que ça veut dire, c'est que les gens sont sous des tentes ou dans des abris quand une bombe explose. Ils sont ensevelis sous les gravats, puis il y a un incendie. Donc vous avez des patients qui ont eu l'abdomen ou le thorax écrasé, qu'on doit parfois amputer, et en plus, ils sont gravement brûlés. Et malgré ça, on voit des personnes brûlées arriver en marchant à l'hôpital, alors qu'ils n'ont plus de mâchoire. Aucun système de santé au monde ne peut faire face au volume de blessés et au type de blessures qu'on voit tous les jours à Gaza.
Amber Alayan de MSF avec Jérémy Lanche à Genève pour France Culture et RFI. Après une double frappe la nuit dernière sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, le président Zelensky dénonce une attaque méprisable de la Russie. Elle a notamment coûté la vie à 3 secouristes, 3 hommes morts en venant aider les habitants d'un immeuble touché quelques minutes plus tôt et que l'armée russe a visé à nouveau. On compte aussi une dizaine de blessés. Nos envoyés spéciaux, Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov se sont rendus sur les lieux de la frappe.
Il s'éloigne de chez lui, l'air épuisé, Oleksiy. Vers 2h du matin, un drone Shahed s'est écrasé sur son petit immeuble de 2 étages.
Tout a été secoué très fort, les fenêtres soufflées. Alors on est descendu ici, dans la cour, et on nous a dit de nous éloigner. Puis on a entendu le bourdonnement du deuxième drone. Avec ma femme et mon enfant de 6 ans, on s'est plaqué au sol, et le drone s'est écrasé sur le camion de pompiers. Les 3 secouristes sont morts.
Un petit groupe se forme autour de ceux qui restent du coupable et qui vient d'être extrait des gravats, ce moteur de drone Shahed semblable à celui d'une mobylette. Face à ce type de frappe directe, rien n'aurait pu sauver nos camarades, dit un secouriste. Et partout où on s'active, les fenêtres brisées sont déjà toutes remplacées par des planches de bois. Normal que cela aille si vite, dit Pavlo, à la tête d'une équipe de bénévoles déjà prêts à reconstruire.
Il y a des gars sur le front qui nous défendent. Et nous, les civils, on apporte notre aide là où c'est nécessaire. C'est grâce à ce tandem qu'on pourra aller jusqu'à la victoire.
C'est aussi une question d'habitude pour ces Ukrainiens de Kharkiv. La ville n'est située qu'à 40 km de la frontière russe. Ils savent qu'il y aura bien d'autres interventions comme celle-là.
Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazirov à Kharkiv en Ukraine. Depuis la fin mars, la Russie a lancé une campagne de frappe contre le système énergétique ukrainien, pays qui est très dépendant d'un petit nombre de grandes centrales, ce qui la rend vulnérable à ces attaques. Le président de la Compagnie nationale d'électricité prône la décentralisation de la capacité de production à l'aide de petites centrales fonctionnant avec l'énergie renouvelable et placées autour des grandes villes ukrainiennes. Pour financer ces nouvelles infrastructures, les autorités tablent sur des investisseurs privés. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour les conditions de vie des harkis dans les camps où ils ont été reçus à leur arrivée d'Algérie dans les années 1960 et 1970. Ces conditions, déclare la CEDH, n'étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine. Les 5 requérants sont des ressortissants français enfants de harkis. 4 d'entre eux sont arrivés en France au moment de l'indépendance de l'Algérie. Ils ont vécu principalement au camp de Bias dans le Lot-et-Garonne jusqu'en 1975. Charles Tamazunt est président du comité Harkis et Vérité. Devenu juriste, il a accompagné ses frères et sœurs qui ont déposé des requêtes à partir de 2019 devant la Cour de Strasbourg. Il avait notamment accusé l'État d'avoir violé 6 articles de la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 3 qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Il a été entendu par la Cour. Écoutez Charles Tamazunt.
Pour ce qui concerne la France, des condamnations sur le fondement de l'article 3 se comptent sur les doigts quasiment d'une main, voire deux, pas plus. C'est quand même historique et c'est enfin pour nous justice qui nous est rendue sur le plan de la réalité du drame qu'a été celui de cette minorité, surtout pour cette minorité qui a été internée au camp de Bias dans le Lot-et-Garonne à son arrivée en France à la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire avec 15 ans d'internement, ce qu'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme et surtout la violation de quasiment tous leurs droits les plus fondamentaux, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant.
Ça ouvre quoi cette décision ?
Alors cette décision, il faut la lire comme étant en fait aujourd'hui une injonction de la Cour européenne des droits de l'homme faite à la France de revoir intégralement son action en matière de reconnaissance et surtout de réparation, puisque la Cour a écarté tous les moyens d'irrecevabilité opposés par l'État français sur le fait qu'elle avait assez fait pour réparer cette minorité en France. Et la Cour a dit non, la France doit tout revoir parce qu'elle a eu tout faux par l'insuffisance des moyens consacrés à réparer cette minorité qui a été victime, je le rappelle, de traitements inhumains et dégradants sur le territoire français pendant plusieurs décennies.
La satisfaction de Charles Tamazunt, président du comité Harkis et Vérité au micro d'Anne Fauquemberg. Le Haut Conseil pour le climat interpelle Gabriel Attal. Il souligne le risque de recul de l'ambition de la France. Dans une lettre au Premier ministre, l'organisme indépendant alerte sur la dérive du calendrier. Il constate que plusieurs textes de lutte contre le changement climatique qui auraient dû être adoptés formellement ne l'ont toujours pas été. Les députés ont approuvé aujourd'hui en première lecture une proposition de loi écologiste pour restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, également appelés polluants éternels. Mais après la mobilisation de fabricants comme le groupe électroménager Seb, les ustensiles de cuisine ont été exclus du périmètre de la loi. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce vote à l'Assemblée nationale.
Oui, un texte voté à l'unanimité.
Le scrutin est clos. L'Assemblée nationale a adopté.
186 voix pour, 0 contre, avec les voix de la majorité malgré les réticences du gouvernement et avec l'abstention des groupes LR et RN. C'est une belle victoire pour le rapporteur du texte, le député écologiste Nicolas Thierry.
Aujourd'hui, on a réglementé le textile, la cosmétique, les fards de ski. On va tester l'eau potable partout sur le territoire national et pour la première fois, on va au-delà du principe pollueur-payeur, on l'inscrit dans la loi. Pour la première fois, les industriels vont devoir répondre financièrement de leurs actes. Et ça, c'est une première étape, il faut le mesurer, qui est absolument décisive et historique. Et ça, rien que ça, c'est une victoire.
Même s'il regrette la sortie pure et simple des ustensiles de cuisine de la liste des produits concernés par l'interdiction des PFAS, à la suite d'un amendement voté par la majorité, la droite et l'ERN. Ce qui a provoqué dans l'hémicycle la colère de Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe écologiste.
Ce que vous venez de faire, c'est encore de faire gagner du temps à une industrie au détriment de la santé des Français. Nous le redisons, ce texte, c'est industrie et santé. Les seuls qui aujourd'hui garantissent et l'industrie et la santé, ce sont les députés écologistes et ce sont les députés de gauche.
Pour le groupe écologiste, cette proposition de loi permet aussi d'envoyer un message, notamment au niveau européen, pour faire avancer la réglementation à une plus large échelle. Mais il manque des moyens concrets pour financer la dépollution, souligne le député Modem Cyril Isaac Sibille, qui avait présenté un rapport sur les PFAS en février dernier.
Se pose la question effectivement du financement. J'interviens pour savoir comment est-ce qu'on va financer les équipements pour dépolluer l'eau. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'en est qu'au début.
Pour être adopté, le texte devra ensuite être repris par les sénateurs écologistes dans le cadre de la journée qui leur est réservée le 30 mai prochain.
Sophie Delpont en direct de l'Assemblée nationale. Comme pour précéder les députés français, l'Union européenne est parvenue à un accord provisoire au début du mois de mars pour interdire les PFAS dans les emballages alimentaires. Mais cela ne règle pas la question majeure de l'eau, qui est un des grands vecteurs de transmission de ces produits chimiques très toxiques pour l'homme. Et pour cela, le recours à la recherche et son financement sont indispensables en aval comme en amont, Cécile de Kervès-Doué.
Jusqu'à la directive européenne de 2020, les PFAS, pourtant très nuisibles à la santé, n'étaient pas recherchés dans l'eau potable. Cette directive, transposée dans le droit français il y a 2 ans, stipule qu'à partir de 2026, pour que l'eau soit potable, il faudra rechercher 20 PFAS, dont la somme devra rester inférieure à 10 nanogrammes par litre, soit 25 fois plus de PFAS que ce que dit la réglementation des États-Unis. Le problème, c'est que cette réglementation ne concerne que 20 PFAS sur 4700 présents dans l'environnement, et surtout, traiter l'eau minérale ou du robinet, c'est un vrai casse-tête, explique Julie Mandré, maître de conférence à l'Université de Montpellier et spécialiste du traitement des eaux.
La plupart des filières de production d'eau potable ne sont pas équipées pour traiter ce problème. Et là, il faut vraiment rajouter des étapes de traitement, la filtration sur charbon actif ou de la filtration membranaire. Mais déjà, c'est des procédés qui sont énergivores, qui ont un impact environnemental. Et ça implique un coût énorme, on parle de plusieurs millions d'euros par an. En fait, on les traite, on est capable de produire une eau épurée, mais on a toujours ce qu'on appelle la production d'un rétentat, qui va être un liquide concentré de toutes les molécules qu'on a retenues. Donc les pesticides, les PFAS, parfois on les rejette dans l'environnement, hein, dans les cours d'eau. Donc le problème est juste déplacé. On dit souvent que c'est pas la poêle qui va vous contaminer en PFAS. Si on fait cuire un œuf dans une poêle anti-adhésive, on a plus de risques d'être contaminé par l'œuf lui-même qui contient des PFAS. Alors que la poêle, c'est pas tant elle qui va vous contaminer en PFAS, c'est la production. C'est des usines qui rejettent énormément d'eau et enrichies en PFAS. Et elle le rejette dans l'environnement.
L'enjeu, conclut-elle, est donc d'imposer d'urgence aux industriels d'utiliser des molécules alternatives, car elles existent, notamment pour les poêles à frire.
Cécile de Kervès-Doué. Une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires était organisée au ministère de l'Intérieur cet après-midi avec les préfets, recteurs et procureurs généraux. Un rendez-vous réclamé par le Premier ministre après les menaces d'attentats qui ont ciblé près de 400 établissements scolaires en quelques jours. Hakim Kasmi a interrogé sur leurs attentes des enseignants de l'Académie de Lille, l'une des premières touchées par ces menaces.
Ici, dans l'Académie de Lille, ce qui inquiète particulièrement les enseignants, c'est la montée de la contestation des enseignements, particulièrement lorsqu'il s'agit d'aborder les questions liées à l'immigration. Jean-François Guérémé, délégué départemental du SNES.
Quand on évoque les migrations, par exemple, le passage ou les tentatives pour passer de la France à l'Angleterre, on peut avoir a priori des réactions provocatrices sur « bon, bah, de toute façon, si les gens meurent, finalement, ils l'ont cherché, et s'ils n'avaient pas cherché à passer en Angleterre, ce ne serait pas noyé ». Ce que je fais, en fait, c'est d'aller chercher des témoignages, de voir un petit peu comment se passent concrètement les choses, quelle quelle est la vie des migrants qui cherchent à passer en Angleterre pour qu'ils réalisent que finalement on a affaire à des humains et qui sont confrontés à des problèmes qui nous dépassent.
Hein. Une contestation qui se généralise dans les établissements scolaires, également de la part des parents, comme le constate Florence Delannoy, secrétaire académique du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
Il est de plus en plus difficile de faire admettre parfois que la parole du professeur doit être a priori entendue et respectée. Et donc on a des contestations, oui, pratiquement dans tous les domaines, de plus en plus violentes. Au lieu de voir le professeur, par exemple, si on a un petit souci, eh bien on demande à voir le proviseur, bon, pourquoi pas, et on écrit directement au rectorat. On a une espèce de culture de la contestation de tout à tout bout de champ qui est vraiment de plus en plus pénible et que soulignent beaucoup de collègues.
Quant à la question de la sécurisation des établissements scolaires, les enseignants demandent plus de moyens humains qui aillent au-delà de la mise en place d'une brigade mobile de sécurité que vient d'annoncer Nicole Belloubet. Olivier Mathieu, professeur d'histoire-géographie au lycée Henri Darras à Liévin.
Moi, je suis dans un établissement où on a vu nos dotations en personnel de surveillance, hein, ce qu'on appelle les AED, diminuer. On a aussi perdu un poste de CPE il y a quelques années. C'est des personnels qui régulièrement sont à la grille, ils sont dans les couloirs, ils connaissent les élèves, ils voient comment ils se comportent. Et puis, ils sont capables de repérer tous ces petits signes qui font qu'à un moment, on peut se dire bah, « tiens, la situation, elle est peut-être en train de changer ».
Enfin, selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 412 établissements ont reçu des menaces d'attentats depuis la semaine à travers 48 départements.
Kim Kasmi à Lille. Emmanuel Macron a inauguré le centre aquatique olympique de Saint-Denis qui accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo des Jeux de Paris 2024. À cette occasion, le président a assuré que malgré les menaces d'attentats, l'organisation de la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine restait le scénario privilégié. Le chef d'État a aussi été interrogé sur une éventuelle participation à la cérémonie de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Une hypothèse qui a le don d'irriter l'extrême droite et une partie de la droite. La polémique avait enflé début mars. Et aujourd'hui, Stéphane, Emmanuel Macron remet une pièce dans la machine.
Oui, cette histoire a démarré par la publication d'un article dans le magazine L'Express le 29 février. Il y était écrit qu'Emmanuel Macron avait reçu la chanteuse Aya Nakamura à l'Élysée 10 jours plus tôt, le 19 février, et lui avait proposé de chanter du Édith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'information avait provoqué de violentes réactions à l'extrême droite, selon laquelle l'artiste franco-malienne ne chante pas dans un français correct. Dans un meeting, Éric Zemmour avait déclaré que les bébés ne votent pas Aya Nakamura, mais Mozart. Et Marine Le Pen avait dénoncé la vulgarité de la chanteuse, affirmant qu'Emmanuel Macron cherchait à humilier le peuple français. Interrogé sur le sujet ce matin, le président de la République a d'abord confirmé avoir reçu Aya Nakamura à l'Élysée en février, avant d'indiquer qu'il verrait effectivement d'un très bon œil qu'elle fasse un tour de chant lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet.
C'est une artiste qui est, je crois, pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle parle à bon nombre de nos compatriotes et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails, mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose.
Une bonne chose, selon le président, qu'à l'extrême droite, on va donc continuer à considérer comme une mauvaise chose. Et la dimension politique de cette affaire n'est pas pour déplaire à Emmanuel Macron. Il se murmure en effet dans l'entourage du chef de l'État qu'au-delà des qualités artistiques de la chanteuse que celui-ci semble apprécier, Aya Nakamura aurait aussi cet avantage de profondément déplaire au Rassemblement national qui, en critiquant la chanteuse, se voit reprocher une forme d'intolérance, voire de racisme. C'est donc le caractère un peu sulfureux du parti de Marine Le Pen qui ressurgit à l'occasion de cette polémique et à 2 mois des élections européennes. Un caractère pourtant que le parti de Marine Le Pen s'efforce patiemment de gommer en vue de la présidentielle en 2027.
Stéphane Robert, les directions de France Télévisions et de Radio France ont annoncé leur intention de renforcer les coopérations entre les rédactions de France Info, TV et Radio, mais aussi entre celles de France Bleu et France 3. Les syndicats de Radio France ont rencontré la présidente Sybille Veil aujourd'hui. À l'issue de cette réunion, le SNJ Radio France dénonce, je cite, un pas de plus vers l'absorption de la radio et sa progressive disparition au profit de la télévision. Écoutez Mathieu Darrier, co-secrétaire du SNJ Radio France.
Quel est l'intérêt de se positionner sur des rapprochements alors qu'on ne sait pas du tout en fait ce qu'il y aura dans le projet de loi de réforme de l'audiovisuel public? Est-ce qu'on parlera de holding? Est-ce qu'on ira jusqu'à la fusion? Tout ça, on ne sait pas. Et malgré tout, les entreprises continuent d'avancer sur les rapprochements. Alors on nous dit il vaut mieux le faire nous-mêmes pour éviter que l'État, que l'actionnaire finalement, nous impose des réformes qu'on serait amené à subir. Certes, le problème, c'est qu'on ouvre la porte à des choses que l'on ne veut surtout pas. Qui sont qu'en fait, par exemple, sur France Info, on nous dit réfléchir à l'idée de rapprocher dans des mêmes lieux les équipes de radio, de télé et de web. Mais une fois qu'on les aura rapprochées dans les mêmes locaux, qu'est-ce qui empêche à un moment de dire ben en fait, on fait une rédaction unique, ce qu'on appelle une newsroom, et à France 3 et France Bleu, c'est exactement la même logique. Et pour nous, c'est vraiment la ligne rouge à ne pas franchir. Si on fait des newsrooms, l'objectif, c'est clairement c'est de réduire les effectifs. On a besoin de journalistes pour vérifier les informations, pour démentir et démonter tout ce qui est fake news qui peut circuler sur les réseaux sociaux. C'est notre mission de service public. Et pour faire ça, il faut des journalistes qualifiés avec des spécialités. Donc, il ne faut pas qu'au final, on réduise en fait l'offre éditoriale que l'on fait à nos auditeurs et téléspectateurs.
Mathieu Daria du SNJ Radio France répondait à Pierre Repère. La météo, le temps restera très nuageux demain sur la moitié nord et pluvieux sur le nord-ouest, mais ensoleillé au sud. Il fera 8 à 15 degrés le matin. Les maximales atteindront 16 à 23 degrés des côtes de la Manche au pourtour méditerranéen, 23 à 29 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.